Georges Larac et Stéphane Gonzalez.
C'est Larac Gonzo. Larac Gonzo, c'est Larac Gonzo.
Larac Gonzalez.
BPM Sport.
Oh, qu'on est content de le retrouver. Sans plus tarder, on reprend nos bonnes habitudes. David Tétégui est avec nous. David, comment vas-tu?
Ça va très bien, Stéphane, et toi?
Ça va bien. Je suis un peu vert aujourd'hui, mais ouais. Je devrais être correct.
David, en tout cas, on va te dire, David, ces dernières semaines, t'as manqué beaucoup aux auditeurs.
Ouais.
T'as vu que ça fait longtemps. Ce qu'on va faire, David, aujourd'hui, c'est qu'on va te mettre le chapeau de Kent Hughes. On va te demander plusieurs questions sur plusieurs dossiers. Puis vu que t'es un agent comme lui, puis tu connais la majorité des DG dans la Ligue, ben, on va te demander ce que tu penses de plusieurs dossiers. OK, t'es prêt?
OK, on y va.
Un à la fois. Là, tous les dossiers de la semaine qui ont fait réagir énormément.
Let's go.
Pour commencer, David Hughes, penses-tu que le Canadien devrait améliorer la situation de leur gardien maintenant?
Bon, en même temps, David Hughes va nous dire quelque chose. Je veux savoir ce que David Etegui pense aussi, par
exemple. Oui, non, il va répondre comme David Etegui. Réponds comme David Etegui, pas comme Kent Hughes.
Écoutez, ça va être... On va répondre un peu comme Kent Hughes le fait, je pense. Je me mets dans la tête d'un DG, je comprends un peu la situation. Et souvent, les amateurs, on est émotifs. Hein, puis on veut que les choses passent vite, puis on veut régler les problèmes rapidement. Mais dans la tête d'un DG, c'est sur du moyen et du long terme. Pour un coach, c'est du court terme. Donc, on va commencer avec ça pour mettre ça au clair avec tout le monde. Quand tu poses la question au niveau des gardiens de but, je me mets dans cette situation et je me dis, voilà ma situation. Je sais pertinemment qu'on a dit au début avant le début du camp d'entraînement qu'on veut être dans le mix. Au tournoi de golf, on veut être dans le mix, on veut être là. On veut pas nécessairement faire les séries, mais on veut pas être loin. La réalité, je sais comme DG que pour être capable d'être dans le mix, comme on dit, ça me prend un duo de gardiens, un tandem qui va être en bas de 3 de pourcentage de moyenne et avec un pourcentage d'arrêt de 905 en montant. Ça, je le sais. C'est historique. Maintenant, je regarde mes gardiens de but. Je suis à l'heure actuelle, je suis à 0.882 et je suis à 3.80 de moyenne. Donc, je donne presque un but de trop par match et je suis quasiment à 0.30, 0.40 en deçà de mon taux d'arrêt nécessaire pour être dans le mix. Je parle pas d'être une des meilleures équipes. Donc là, j'analyse la situation et je me dis, c'est beau, je vais aller chercher un autre gardien, je vais aller chercher de l'aide. Qu'est-ce que je fais? Alors, je vais regarder un gardien qui va rentrer dans ce profil-là, 2.95, 2.97, 905, 910, et qui est disponible et qui est un vétéran qui peut venir calmer les choses. Mais dans la Ligue nationale, cette année, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Alors, on se pose la question, est-ce que Alex Lyon à Détroit, Talbot à Détroit, ils fit les deux? Est-ce qu'ils vont laisser aller un des deux? À mon avis, non. Est-ce que Vegas va aller laisser partir Samsonov? Non. Est-ce que Merzlikin à Columbus est disponible? Non. Donc, si je me retourne sur tous les autres gardiens dans la Ligue, j'en ai pas qui ont des meilleures statistiques que mes deux gardiens qui fit dans le moule. Donc, la réalité, c'est que faut pas oublier une affaire. Montembeau, là, il y a déjà 28 ans. Quand on parle aux gens un peu partout, ils ont toute l'impression que Montembeau, il y a 22 ans. Il y a 28 ans, Montembeau. Il est plus vieux que Kottinger, il est plus vieux que plein de gardiens. Donc, en réalité, c'est son année. Je ne peux pas aller chercher rien sur le marché à l'heure actuelle qui en vaut la peine. Donc, je dois jouer d'une autre manière, c'est-à-dire pour resserrer la défensive. Il faut que je mette l'emphase sur la défensive pour que mes défenseurs jouent mieux, donnent moins de chances de marquer, créent moins de revirements à l'attaque et faire en sorte qu'on aide nos gardiens à augmenter. Parce que Montembeau, il est à 891 de pourcentage d'arrêt, 3.67. Il y a encore des chances que Monty, il revienne, il rabaisse sa troupe les 3 et il monte au-dessus de 900. Faut l'encadrer. Je me dis, je vais avec lui et on verra possiblement dans notre saison qu'est-ce qu'on fait avec ça.
Bon, David, changeons de dossier et allons voir Kirby Dach maintenant. A joué au centre, a joué à l'aile, a fait tout ça même dans la même rencontre, dans le dernier match. Qu'est-ce que tu le vois faire pour la suite des choses?
Moi, la suite des choses pour Kirby Dach, moi, j'ai confiance à Kirby Dach. Il faut lui donner un essai complet cette saison. Premièrement, il faut pas que les gens oublient. Je suis le DG, là. OK? Je me dis, le gars, il revient d'une blessure majeure. Donc, ça prend... Au Canfield, l'année dernière, il est venu. Ça lui a pris du temps aussi de se remettre à marquer des buts. C'est long. Des opérations majeures, c'est long. Donc, il revient. On l'a vu un peu s'adresser à ses coéquipiers après son match de deux points. Et puis on voyait que peut-être que son taux de motivation, pas de motivation, mais plutôt de confiance en lui, est peut-être pas à son niveau, à son top. Il sait qu'il revient d'une blessure. Moi, ce qui m'inquiète avec lui, c'est beaucoup plus son pourcentage de mise en jeu à 37,5, qui ne veut juste pas bouger depuis le début de sa carrière. Et ça, c'est ce qui m'inquiète au niveau de son jeu au centre. Parce que on va le blâmer de quoi? Lorsqu'il a joué au centre, Stéphane, cette année, il a été flanqué de Armia, des fois New Hook. C'est des gars de troisième trio, ça. Je l'ai toujours dit. Donc, en réalité, on va lui mettre Lane lorsqu'il va revenir, en espérant que Lane ne va pas avoir de la difficulté à repartir lui aussi avec sa blessure. Il va falloir peut-être trouver de l'aide à l'extérieur pour trouver un gars de deuxième trio, un vrai, à ce moment-là, pour balancer les lignes. Et là, je vais voir qu'est-ce que Kirby donne. Parce que Kirby, à l'heure actuelle, c'est un but, quatre passes et cinq points en 10 parties, qui lui donne une moyenne de 40 points, Stéphane. 40 points, c'est sa moyenne qu'il fait depuis le début de sa carrière. Donc, il n'est pas en arrière de son taux de points par match. Il est beaucoup plus en arrière au niveau de la progression qu'on attend de lui. Donc, moi, je m'attends à ce que Kirby, la deuxième moitié de saison, va être beaucoup plus forte que la première. Je l'entoure bien, je vois ce qui se passe et je prends des décisions à la fin de la saison.
Là, David, Jake Evans qui va devenir agent libre. Toi, en tant que DG, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu le re-signes ou tu l'échanges au deadline?
Tu m'aurais demandé ça à l'entre-saison. Je t'aurais dit que c'est sa dernière saison avec moi. La réalité, c'est qu'on a vu que Jake, cette année, c'est le centre le plus fiable. Il est flat, il a bon défensivement, mise en jeu est à 50%, stabilise son trio, c'est un gars qui va te donner à peu près une trentaine de points. Le parfait joueur de centre pour une équipe championne sur un quatrième trio. OK, défensivement, des avantages numériques, beaucoup d'avantages, il n'est pas très gros, 6 pieds, c'est correct, bonne grosseur, dans l'ensemble, c'est correct. Moi, ce que je fais, à l'heure actuelle, si la tendance se maintient avec Jake Evans, c'est un gars qui a quand même déjà 28 ans, faut pas oublier ça, je le re-signe, mais pas plus que 2 ans. C'est clair. Je leur fais un contrat qui va osciller dans les alentours de 4 millions, 2 millions, qui est une légère augmentation, 2 millions par année, 2 ans, ça va l'amener à 30 ans. Entre-temps, je veux voir comment Kapanen se développe comme joueur de centre. Je veux voir Beck, comment est-ce qu'il se développe comme joueur de centre dans les 2 prochaines saisons. Et là, j'aurai mon remplaçant pour notre ami Evans à ce moment-là. Mais pour le moment, je peux pas le soustraire de l'équation dans l'équipe actuelle des Canadiens de Montréal.
David, on le sait que les Canadiens ont besoin de talent. Offensivement, c'est sûr, là, c'est assez mince, puis le renfort va arriver un petit peu partout. Est-ce que tu aimerais, parce qu'on a entendu Pierre Lebrun, on a entendu Frank Saravelli, on a entendu également Elliott Friedman en parler, est-ce que tu aimerais voir le Canadien améliorer l'équipe avec du talent?
Puis en plus, David, juste avant que tu répondes à la question, on a vu aussi dans les réseaux sociaux, quand tu as parlé de Zegras, tu as eu plus de 150 000 personnes qui ont liké puis qui ont regardé ce commentaire-là. Je ne sais pas si c'était là que tu vas aller ou si tu as d'autres noms aussi, mais qu'est-ce que tu penses de ça?
Je suis un DG, je dois être réaliste. Je ne vais pas aller chercher McKinnon. Il n'est pas sur le marché et je ne vais pas déculoter mon équipe alors que je suis en plein milieu d'une reconstruction. J'ai Demidov qui arrive l'année prochaine. Moi, les gens qui me disent justement « Demidov arrive, faisons rien », Demidov, il n'y a que 18 ans, les amis. Quand les gens, j'entends dire les gens « Hage va être un super bon centre numéro 2 ». Hage est à sa première année dans le NCAA.
Ouais.
OK? Donc là, il faut comprendre une affaire. C'est que je ne veux pas déstabiliser ma masse salariale. Je ne veux pas, disons, bifurquer de mon plan de construction avec tout le beau talent que j'ai. Mais je veux intégrer un talent de haut niveau. Mais tu n'as pas le choix de prendre une chance, mon ami. Donc, tu vas aller vers un joueur qui a ce profil et qui ne va pas, en théorie, me déculoter. C'est pour ça que j'ai mis ça sur mes réseaux sociaux. Quand j'ai dit sur mon compte X, que tu as dit au-dessus de 100 000, mais Trevor Zegras, il est parfait pour ça. Et oui, je comprends que il est peut-être pas le gars défensivement le plus solide. C'est pas le gars qui a déjà fait 100 points. Il y a certaines personnes qui disent très spectaculaire, mais pas plus. Mais je dis pas qu'il est McKinnon non plus. Donc la réalité, c'est que Trevor Zegras là, moi je me mets là. Puis des fois j'entends des gens dire qu'il est petit. Il est quand même 6 pieds 190 livres, hein. Donc, il est plus gros que New Hook, Suzuki, Evans, OK? Il est la grosseur de Demidov. Personne ne se plaint de la grosseur de Demidov. Donc, en réalité, il n'y a pas de problème avec sa grosseur. Maintenant, ce qui se passe, c'est que j'analyse la situation et je me dis, en 21-22, 23 buts, 38 passes, 61 points, mais moins 21. 22-23, 23 buts, 42 passes, 65 points, moins 24. Là, qu'est-ce qui arrive? On commence à brasser la salade. Et en 23-24, une chute totale. En 31 parties, 15 points, mais un super moins 1. Donc, qu'est-ce qui arrive? On remarque qu'on a un gars qu'on a voulu changer du jour au lendemain. On a dû lui taper sur les doigts, pas à peu près. On a dit, toi, t'es moins 20, c'est terminé. Alors, il ne faut pas oublier qu'il jouait pour dans ce temps-là. Et encore aujourd'hui, Anaheim, qui est une des pires équipes au niveau des plus et des moins. Donc, son moins 21 dans une équipe gagnante est peut-être un moins 10. OK? On essaie de le briser en morceaux pour qu'il rentre dans le jeu défensif. Et là, lui, il se retrouve plus. Donc, c'est un gars qui est perdu. Il sait plus comment jouer. Il sait plus à qui plaire. Il est plus naturel. Il fit plus. Mais il est tombé à moins 1. Donc là, ce qui arrive, c'est qu'on a un joueur qui a complètement perdu confiance. Sa valeur, elle est au plus bas. Je ne sais pas si Verbeek est prêt à s'en départir. Mais les Canadiens de Montréal, s'ils peuvent aller chercher un gars comme ça de 23 ans, avec un contrat encore pour 2 ans, qui va l'amener à 25 ans comme RFA, où j'ai encore un contrôle, s'il est bon. Et s'il n'est pas bon, c'est ciao. Si je suis capable de l'avoir à un prix raisonnable et rentrer ce gars-là dans mon top 6, le mettre avec Dak, pour aider Dak justement aussi, et ramener Lainé, et faire en sorte que j'ai un vrai top 6, je vous parle même pas de l'année prochaine, lorsqu'un Demidov avec Caulfield, avec un Dak qui est réveillé, un Lane qui est peut-être reparti, qu'est-ce que Zegras peut donner avec son ami Caulfield? Si le prix est bon, les Canadiens se doivent d'aller le chercher, et c'est pas pour rien que Kent Hughes a failli aller le prendre s'il n'avait pas pu avoir Demidov, il l'aurait eu avec les Canadiens de Montréal pour beaucoup plus cher.
Ouais, Verbeek n'a pas eu son prix, c'est pour ça qu'il n'a pas bougé encore. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne bougera pas, par exemple. Ça, c'est bien de le préciser, David, quand même. On va aller en pause.
Oui, mais attends, je veux rien terminer sur ça, là. Je veux que les gens comprennent. Ça, là, c'est parce qu'il y a eu une offre qui était intéressante des Canadiens de Montréal pendant le draft. Finalement, les Canadiens se sont ravisés. Là, deux mois plus tard, son joueur va vraiment pas bien. Et là, il a sa fierté, son orgueil. Je veux avoir ce que j'avais.
Ouais.
Et il est là, son problème.
Ah ouais. Il y en a eu des offres cet été pour Trevor Zegras.
Oui.
David, tu restes avec nous. On poursuit le jeu au retour. Et entre autres, vous ne venez pas manquer ce que David va nous dire sur Demidov.
Joyeux Halloween. 91.9.
Let's go.
Dans Lara Gonzalez, c'est jour de match.
De retour avec David Etegui. Je voulais te laisser celle-là, Georges.
Ben oui.
Vas-y, je te la laisse. Je sais que c'est ton poulain.
David, là, encore une fois, comme DG, on a tous hâte de t'entendre sur celle-là. Jack Eye ne joue pas aujourd'hui contre Washington. Washington qui a trois hommes forts, Michael Ratt, Wilson et Duhem. Si Jack Eye ne joue pas ce match-là, contre qui il va jouer? Je comprends que défensivement, t'sais, c'est pas son meilleur hockey, mais il faut que tu sois capable d'analyser les forces en présence. C'est avoir Washington contre une équipe qui va bien, très physique. Puis là, il a manqué quelques matchs cette année. On sait que c'est pas le préféré de Martin Saint-Louis. En tant que DG, tout le bruit que t'entends avec, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu le gardes? Parce que on en a pas, puis comme si tu l'échanges, tu vas pas le remplacer. Ou tu l'échanges parce qu'il y a des équipes qui le veulent, qui donneraient quelque chose pour... puis il y aurait une valeur pour lui. Qu'est-ce que tu fais avec ce dossier-là, parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de lui?
Premièrement, ça fait 2 ans que j'en parle. Toi, t'es bien placé pour comprendre ça. Je suis DG des Canadiens de Montréal. J'ai le problème que tu viens m'expliquer avec Jack Eye. C'est clair, c'est sûr à 100% que je n'échange pas Jack Eye. Une équipe qui aspire à gagner la Coupe Stanley, à jouer 20aine de parties dans les séries, peut-être plus pour gagner une Coupe Stanley, qui va jouer contre des grosses équipes, t'as besoin d'un gars comme Jack Eye. Il n'y en a pas des beaucoup comme ça. Jack Eye, je comprends que cette année, c'est un gros zéro au niveau des points, c'est moins 6. Il joue à peu près que 15 minutes par match, les 8 parties qu'il a jouées. La vérité, c'est qu'il est capable de faire mieux offensivement. Il l'a déjà prouvé. Il n'y a pas un très bon début offensif. Par ailleurs, regardez ce qui est arrivé avec Trouba. Regardez comment Domi s'est calmé. Regardez comment Reeves s'est fait petit à Toronto. Ça, là, si t'as pas un Jack Eye dans ton équipe, ça arrive pas, ces choses-là. Déjà, les Canadiens, sont pas dans une position, parce qu'à part de lui et Pezzetta, sont pas dans une position pour faire les gros bras contre toutes les équipes de la Ligue, ils ont un avantage. Ils ont un Jack Eye qui est capable de faire la loi pendant 15 minutes par match. Contrairement à un Matamor comme Reeves, qui va jouer entre 4 et 8 minutes par match. Donc, t'as un gars qui est là deux fois plus de temps, qui peut faire la loi deux fois plus de temps. Donc, je suis Martin Saint-Louis, je vais voir mon coach en bas, je vais à mon coach, hey, apprends-y à bien jouer défensivement, qu'il mette quelques points ici, qu'il ne crée pas de problème avec des mauvaises punitions, puis mets-le moi entre 5 et 7, ce gars-là. Entre 5e et 7e défenseur. Si ça va vraiment mal, tu l'enlèves. Sinon, tu le laisses, je le veux dans la formation, surtout contre les grosses équipes. Et tu me parles de Washington, je n'ai pas la raison pour laquelle Martin ne le fait pas jouer. Il y a peut-être une petite blessure, il y a peut-être quelque chose, on ne sait pas. Mais c'est clair que de manière, ça serait le 78e match de la saison et on se battrait pour une place dans les séries. C'est sûr que Jack Hayes serait dans la formation.
Et d'ailleurs, on y reviendra, mais il y a eu des petits changements aussi à l'entraînement. New York retourne avec Doc et Slavkovski et Kapanen se retrouve sur le quatrième trio avec Dvorak et Armia. Alors, ça a été la petite et seule modification ce matin. David, on doit parler de Demidov encore une fois. Je veux dire, on a relayé les buts. Je veux dire, ça fait le tour de la toile, ce qui se passe avec Demidov. On sait que les partisans nous appellent à chaque semaine pour nous dire « on veut le voir débarquer à Montréal, on veut le voir débarquer à Montréal ». Est-ce que tu es capable d'expliquer aux auditeurs comment ça fonctionne, les règlements de la KHL, les contrats, l'entente qui tient plus non plus entre les deux circuits? Les gens ont beau rêver, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, malheureusement, pour cette année.
Bon, premièrement, Stéphane, la KHL se sont dotés d'un mécanisme pour pouvoir vendre leurs joueurs, si tu veux, entre parenthèses.
Ouais.
OK? Pour être capable de libérer. Ça, ils ont fait, disons, un move qui était assez important pour se permettre de le faire. Maintenant, la réalité, c'est que Demidov, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, les amis. Mishkov est arrivé à Philadelphie et je suis persuadé qu'on a eu des négociations pour le sortir de là. Finalement, il est sorti de quelle manière? Il est sorti supposément parce que on veut faire un geste d'humanité envers le jeune qui a perdu quelqu'un proche de lui. Ça, tout ça, c'est de la bouillie pour les gens. Il y a de l'argent là-dedans. Maintenant, ce qui se passe, c'est que il est sous contrat. Donc, on ne peut pas, les Canadiens de Montréal, le faire venir ici parce qu'il a un contrat qui est encore valide. Il doit compléter sa saison. Dans le cas des Canadiens, croyez-moi, ils préfèrent le voir au SKA que de le voir à Montréal cette année. Mais dans un SKA où il ne joue pas, comme à l'heure actuelle, 11 minutes par match, où il va jouer tout près de 15-16 minutes par match, où il va être capable de s'épanouir. Et pendant un certain temps, on a vu son entraîneur vraiment le bousiller avec un temps de glace horrible. OK, c'était comme ils font souvent, je l'ai dit sur mes médias sociaux. Ça, c'est de la mafia, ça. Pour forcer un joueur à signer pour pouvoir le vendre, pour le sortir de son contrat avec une équipe de la Ligue nationale à gros dollars. C'est de la mafia, ça. Alors, la réalité, c'est que on a voulu le bencher, on l'a pas fait jouer, on a sorti des excuses, on a comparé ça à un match de soccer, on a fait plein d'affaires. Tout ça, c'est de la bouillie pour les chats. Demidov, il est à trois points de la première position des scoreurs de la KHL avec une moyenne de 11 minutes par match. La moyenne des top 25, c'est 16,52 minutes par match. Et à part ça, je vous épargne la quantité de poteaux qu'il a frappé. Il a dû en frapper dans toutes ses parties au moins 7 ou 8. Le gars pourrait être déjà à 35 points s'il y avait le temps de glace. Je pense encore plus aujourd'hui que l'année dernière avec son 2 points par match dans la MHL, encore plus qu'il va être dominant dans la Ligue nationale lorsqu'il va arriver avec les Canadiens de Montréal. Je pense que les Canadiens de Montréal doivent se frotter les mains et ils doivent se dire on a une super, méga, super vedette entre les mains et on le voit dans les jeux de la semaine, on voit comment son génie, dans son dernier but qu'il a vu, on a vu comment il a coupé. Il a toujours tendance, vous allez remarquer, à couper en X. C'est pas un gars qui va nord-sud, mais directement droit. C'est un gars qui coupe dans les angles.
Ah ouais.
Il a une facilité du revers. C'est très rare des joueurs qui sont capables de marquer du revers de la manière qu'il le fait. Il est capable de jouer dans toutes les positions, dans toutes les situations. C'est spectaculaire. Ça donne vraiment espoir de finalement voir un grand joueur, un grand attaquant, finalement, après tout près de 30-40 ans avec les Canadiens de Montréal. Je parle d'une méga super vedette. Pas d'une vedette. On en a eu des vedettes à l'attaque. Dans Fools, Brian Bellows, qui a marqué 40 buts, et ainsi de suite. Stéphane Richer, 50 buts. Mais je parle d'une vraie super vedette. Un gars qui va être comme McKinnon, qui va être un vrai, là. Donc, je pense qu'on l'a. Et puis, c'est ce qui va être important, c'est de continuer son développement qui termine là, puis qui arrive au plus rapide ici, pour l'acclimater à la Ligue nationale.
Juste pour terminer, pour compléter, Pat des Broncos qui nous dit pourquoi le Canadien négocie pas comme Philadelphie ont fait. Philadelphie, en fait, ça a été fait à la fin de la saison. Puis c'est, comme tu dis, il y a eu des tractations, mais ils ont voulu le libérer aussi du contrat qui était là-bas. Donc ça n'a pas été fait en cours de saison.
Non, mais David, ce que tu me dis, c'est que le Canadien va probablement payer pour qu'il vienne l'an prochain. C'est
mais non, mais quand la saison
va finir
en cachet.
Je vous le dis tout de suite, là. Écoutez, vous pouvez mettre ça dans les journaux, là. Vous m'écoutez tout le monde au Québec, là, dans tous les médias sportifs. Demidov va être ici coûte que coûte en septembre au camp des Canadiens l'année prochaine. Ouais. Que les Canadiens payent ou qu'ils sortent sans payer.
Ouais, parce qu'après, il n'y a plus de contrat, David. C'est la dernière année de son contrat. Fait que c'est...
Non, mais disons qu'ils peuvent le mettre dans une situation où il signe finalement sous pression.
Exact.
Je pense pas que ça soit le cas. Mais même s'il le ferait, c'est pas pour le garder. C'est strictement pour faire payer les Canadiens de Montréal. Ouais.
Parce que
et pour revenir à ta question, Mishkov avait 3 ans encore de contrat.
Exact.
C'était pas la même situation.
Mais comme ça, on l'a vu dans le passé, ça, la KHL s'en fout. Tu veux que le joueur signe, tu vas signer, sinon il oblige à faire des services.
Mais on le sait,
après ça, le Canadien va faire comme. Les Flyers, c'est ceux qui ont payé. Les Flyers ont payé, il est revenu.
Non, mais rappelez-vous du traitement aussi à Romanov en fin de contrat. Comme ça, on l'avait laissé le coup au banc, on l'a laissé jouer 3 minutes.
Les Canadiens ont-ils moyen de le payer? S'il faut qu'il paye pour qu'il vienne?
Oh, ouais, c'est pas un plafond salarial, ça, de toute façon. Ouais.
Une valeur de 3 milliards de dollars sur un investissement de 500 millions, Monsen n'a pas de problème à payer ça. Ça va être vite fait, ça.
US, David, US.
Yes, sir.
Merci beaucoup, David.
David, merci beaucoup.
Merci, bonne semaine à vous, les amis.
À toi aussi, David. Yes, sir, David. Alors, on va aller en pause et au retour, il est là. Il est plus là, il se déguise.
Ouais, il met son déguisement. Puis oubliez pas, écrivez BPM Sport sur YouTube. Parce que là, pas juste que vous allez voir nos 3 costumes, mais vous allez voir le costume d'Olivier Brett.
Ah, let's go. YouTube, on est là, on monte les chiffres, vous venez, vous regardez tout ça. On fait la courte pause, 2 minutes, Olivier Brett au retour.
Georges Larac et Stéphane Gonzalez.
C'est la RAC Gonzo. La RAC Gonzo, c'est la RAC Gonzo.
La RAC Gonzalez.
BPM Sport.
Oh, qu'on est content de le retrouver. Sans plus tarder, on reprend nos bonnes habitudes. David Tetegui avec nous. David, comment vas-tu?
Ça va très bien, Stéphane, et toi?
Ça va bien. Je suis un peu vert aujourd'hui, mais je devrais être correct.
David, en tout cas, on va te dire, David, ces dernières semaines, t'as manqué beaucoup aux auditeurs.
Ouais.
T'as vu que ça fait longtemps. Ce qu'on va faire, David, aujourd'hui, c'est qu'on va te mettre le chapeau de Kent Hughes. On va te demander plusieurs questions sur plusieurs dossiers. Puis vu que t'es un agent comme lui, puis tu connais la majorité des DG dans la Ligue, ben, on va te demander ce que tu penses de plusieurs dossiers. OK, t'es prêt?
OK, on y va.
Un à la fois. Là, tous les dossiers de la semaine qui ont fait réagir énormément.
Let's go.
Pour commencer, David Hughes, penses-tu que le Canadien devrait améliorer la situation de leur gardien maintenant?
Bon, en même temps, David Hughes va nous dire quelque chose. Je veux savoir ce que David Etegui pense aussi, par exemple.
Oui, non, il va répondre comme David Etegui. Réponds comme David Etegui, pas comme Kent Hughes.
Écoutez, ça va être... On va répondre un peu comme Kent Hughes le fait, je pense. Je me mets dans la tête d'un DG, je comprends un peu la situation. Et souvent, les amateurs, on est émotifs. Hein, puis on veut que les choses passent vite, puis on veut régler les problèmes rapidement. Mais dans la tête d'un DG, c'est sur du moyen et du long terme. Pour un coach, c'est du court terme. Donc, on va commencer avec ça pour mettre ça au clair avec tout le monde. Quand tu poses la question au niveau des gardiens de but, je me mets dans cette situation et je me dis, voilà ma situation. Je sais pertinemment qu'on a dit au début avant le début du camp d'entraînement qu'on veut être dans le mix. Au tournoi de golf, on veut être dans le mix, on veut être là. On veut pas nécessairement faire les séries, mais on veut pas être loin. La réalité, je sais comme DG que pour être capable d'être dans le mix, comme on dit, ça me prend un duo de gardiens, un tandem qui va être en bas de 3 de pourcentage de moyenne et avec un pourcentage d'arrêt de 905 en montant. Ça, je le sais. C'est historique. Maintenant, je regarde mes gardiens de but. À l'heure actuelle, je suis à 0.882 et je suis à 3.80 de moyenne. Donc, je donne presque un but de trop par match et je suis quasiment à 0.30, 0.40 en deçà de mon taux d'arrêt nécessaire pour être dans le mix. Je parle pas d'être une des meilleures équipes. Donc là, j'analyse la situation et je me dis, c'est beau, je vais aller chercher un autre gardien, je vais chercher de l'aide. Qu'est-ce que je fais? Alors, je vais regarder un gardien qui va rentrer dans ce profil-là, 2.95, 2.97, 905, 910, et qui est disponible et qui est un vétéran qui peut venir calmer les choses. Mais dans la Ligue nationale, cette année, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Alors, on se pose la question, est-ce que Alex Lyon à Détroit, Talbot à Détroit, ils fit les deux? Est-ce qu'ils vont laisser aller un des deux? À mon avis, non. Est-ce que Vegas va aller laisser partir Samsonov? Non. Est-ce que Merzlikin à Columbus est disponible? Non. Donc, si je me retourne sur tous les autres gardiens dans la Ligue, j'en ai pas qui ont des meilleures statistiques que mes deux gardiens qui fit dans le moule. Donc, la réalité, c'est que faut pas oublier une affaire. Montembeau, là, il y a déjà 28 ans. Quand on parle aux gens un peu partout, ils ont toute l'impression que Montembeau, il y a 22 ans. Il y a 28 ans, Montembeau. Il est plus vieux que Kotinger, il est plus vieux que plein de gardiens. Donc, en réalité, c'est son année. Je ne peux pas aller chercher rien sur le marché à l'heure actuelle qui en vaut la peine. Donc, je dois jouer d'une autre manière, c'est-à-dire pour resserrer la défensive. Il faut que je mette l'emphase sur la défensive pour que mes défenseurs jouent mieux, donnent moins de chances de marquer, créent moins de revirements à l'attaque et faire en sorte qu'on aide nos gardiens à augmenter. Parce que Montembeau, il est à 891 de pourcentage d'arrêt, 3.67. Il y a encore des chances que Monty y revienne, il rabaisse ça trop près 3 et il monte au-dessus de 900. Faut l'encadrer. Je me dis, je vais avec lui et on verra possiblement dans notre saison qu'est-ce qu'on fait avec ça.
Bon, David, changeons de dossier et allons voir Kirby Dach maintenant. A joué au centre, a joué à l'aile, a joué au centre, a joué à l'aile. A fait tout ça même dans la même rencontre, dans le dernier match. Qu'est-ce que tu le vois faire pour la suite des choses?
Moi, la suite des choses pour Kirby Dach, moi, j'ai confiance à Kirby Dach. Il faut lui donner un essai complet cette saison. Premièrement, il ne faut pas que les gens oublient. Je suis le DG, là. OK? Je me dis, le gars, il revient d'une blessure majeure. Majeure. Donc, ça prend... Au Canfield, l'année dernière, il est revenu. Ça lui a pris du temps aussi de se remettre à marquer des buts. C'est long. Des opérations majeures, c'est long. Donc, il revient. On l'a vu un peu s'adresser à ses coéquipiers après son match de 2 points. Et puis, on voyait que peut-être que son taux de motivation, pas de motivation, mais plutôt de confiance en lui, et peut-être pas à son niveau, à son top. Il sait qu'il revient d'une blessure. Moi, ce qui m'inquiète avec lui, c'est beaucoup plus son pourcentage de mise en jeu à 37.5, qui ne veut juste pas bouger depuis le début de sa carrière. Et ça, c'est ce qui m'inquiète au niveau de son jeu au centre. Parce que on va le blâmer de quoi? Lorsqu'il a joué au centre, Stéphane, cette année, il a été flanqué de Armia, des fois New Hook. C'est des gars de troisième trio, ça. Je l'ai toujours dit. Donc, en réalité, on va lui mettre Lane lorsqu'il va revenir, en espérant que Lane ne va pas avoir de la difficulté à repartir lui aussi avec sa blessure. Il va falloir peut-être trouver de l'aide à l'extérieur pour trouver un gars de deuxième trio, un vrai, à ce moment-là, pour balancer les lignes. Et là, je vais voir qu'est-ce que Kirby donne. Parce que Kirby, à l'heure actuelle, c'est 1 but, 4 passes et 5 points en 10 parties. Tu lui donnes une moyenne de 40 points, Stéphane. 40 points, c'est sa moyenne qu'il fait depuis le début de sa carrière. Donc, il n'est pas en arrière de son taux de points par match. Il est beaucoup plus en arrière au niveau de la progression qu'on attend de lui. Donc, moi, je m'attends à ce que Kirby, la deuxième moitié de saison, va être beaucoup plus forte que la première. Je l'entoure bien, je vois ce qui se passe et je prends des décisions à la fin de la saison.
Là, David, Jake Evans qui va devenir agent libre. Toi, en tant que DG, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu le re-signes ou tu l'échanges au deadline?
Tu m'aurais demandé ça à l'entre-saison. Je t'aurais dit que c'est sa dernière saison avec moi. La réalité, c'est qu'on a vu que Jake, cette année, c'est le centre le plus fiable. Il est fiable, bon défensivement, mise en jeu est à 50%, stabilise son trio, c'est un gars qui va te donner à peu près une trentaine de points. Le parfait joueur de centre pour une équipe championne sur un quatrième trio. OK, défensivement, des avantages numériques, beaucoup d'avantages, il n'est pas très gros, 6 pieds, c'est correct, bonne grosseur, dans l'ensemble, c'est correct. Moi, ce que je fais, à l'heure actuelle, si la tendance se maintient avec Jake Evans, c'est un gars qui a quand même déjà 28 ans, faut pas oublier ça, je le re-signe, mais pas plus que 2 ans. C'est clair. Je leur fais un contrat qui va osciller dans les alentours de 4 millions, 2 millions, qui est une légère augmentation, 2 millions par année, 2 ans, ça va l'amener à 30 ans. Entre-temps, je veux voir comment Kapanen se développe comme joueur de centre. Je veux voir Beck, comment est-ce qu'il se développe comme joueur de centre dans les 2 prochaines saisons. Et là, j'aurai mon remplaçant pour notre ami Evans à ce moment-là, mais pour le moment, je ne peux pas le soustraire de l'équation dans l'équipe actuelle des Canadiens de Montréal.
David, on le sait que les Canadiens ont besoin de talent. Offensivement, c'est sûr, là, c'est assez mince, puis le renfort va arriver un petit peu partout. Est-ce que tu aimerais, parce qu'on a entendu Pierre Lebrun, on a entendu Frank Cervelli, on a entendu également Elliott Friedman en parler, est-ce que tu aimerais voir le Canadien améliorer l'équipe avec du talent?
Puis en plus, David, juste avant que tu répondes à la question, on a vu aussi dans les réseaux sociaux, quand tu as parlé de Zegras, tu as eu plus de 150 000 personnes qui ont liké et qui ont regardé ce commentaire-là. Je ne sais pas si c'était là que tu vas aller ou si tu as d'autres noms aussi, mais qu'est-ce que tu penses de ça?
Je suis un DG. Je dois être réaliste. Je ne vais pas aller chercher McKinnon. Il n'est pas sur le marché. Et je ne vais pas déculotter mon équipe alors que je suis en plein milieu d'une reconstruction. J'ai Demidov qui arrive l'année prochaine. Moi, les gens qui me disent justement « Demidov arrive, faisons rien », Demidov, il n'y a que 18 ans, les amis. Quand les gens, j'entends dire les gens « Hage va être un super bon centre numéro 2 ». Hage est à sa première année dans le NCAA. Ben ouais. OK? Donc là, il faut comprendre une affaire. C'est que je ne veux pas déstabiliser ma masse salariale. Je ne veux pas, disons, bifurquer de mon plan de construction avec tout le beau talent que j'ai, mais je veux intégrer un talent de haut niveau. Mais t'as pas le choix de prendre une chance, mon ami. Donc, tu vas aller vers un joueur qui a ce profil et qui va pas, en théorie, me déculoter. C'est pour ça que j'ai mis ça sur mes réseaux sociaux. Quand j'ai dit sur mon compte X, que tu as dit au-dessus de 100 000, mais Trevor Zegras, il est parfait pour ça. Et oui, je comprends que il est peut-être pas le gars défensivement le plus solide, c'est pas le gars qui a déjà fait 100 points. Certaines personnes disent qu'il est très spectaculaire, mais pas plus. Mais je dis pas qu'il est McKinnon non plus. Donc la réalité, c'est que Trevor Zegras, là, moi je me mets là, puis des fois j'entends des gens dire qu'il est petit, il est quand même 6 pieds 190 livres. Hein? Donc il est plus gros que Newhook, Suzuki, Evans, OK? Il a la grosseur de Demidov. Personne ne se plaint de la grosseur de Demidov. Donc, en réalité, il n'y a pas de problème avec sa grosseur. Maintenant, ce qui se passe, c'est que j'analyse la situation et je me dis, en 21-22, 23 buts, 38 passes, 61 points, mais moins 21. 22-23, 23 buts, 42 passes, 65 points, moins 24. Là, qu'est-ce qui arrive? On commence à brasser la salade. Et en 23-24, une chute totale. En 31 parties, 15 points, mais un super moins 1. Donc, qu'est-ce qui arrive? On remarque qu'on a un gars qu'on a voulu changer du jour au lendemain. On a dû lui taper sur les doigts, pas à peu près. On a dit, toi, t'es moins 20, c'est terminé. Alors, il ne faut pas oublier qu'il jouait pour dans ce temps-là. Et encore aujourd'hui, Anaheim, qui est une des pires équipes au niveau des plus et des moins. Donc, son moins 21 dans une équipe gagnante est peut-être un moins 10. OK? On essaie de le briser en morceaux pour qu'il rentre dans le jeu défensif. Et là, lui, il se retrouve plus. Donc, c'est un gars qui est perdu. Il ne sait plus comment jouer, il ne sait plus à qui plaire, il est plus naturel. Il ne fit plus. Mais il est tombé à moins 1. Donc là, ce qui arrive, c'est qu'on a un joueur qui a complètement perdu confiance. Sa valeur, elle est au plus bas. Je ne sais pas si Verbeek est prêt à s'en départir. Mais les Canadiens de Montréal, s'ils peuvent aller chercher un gars comme ça de 23 ans, avec un contrat encore pour 2 ans, qui va l'amener à 25 ans comme RFA où j'ai encore un contrôle, s'il est bon. Et s'il n'est pas bon, c'est ciao. Si je suis capable de l'avoir à un prix raisonnable et rentrer ce gars-là dans mon top 6, le mettre avec Dak, pour aider Dak justement aussi, et ramener Lainé, et faire en sorte que j'ai un vrai top 6, je ne vous parle même pas de l'année prochaine lorsqu'un Demidov avec Caulfield, avec un Dak qui est réveillé, un Lane qui est peut-être reparti, qu'est-ce que Zegras peut donner avec son ami Caulfield? Si le prix est bon, les Canadiens se doivent d'aller le chercher. Et c'est pas pour rien que Kent Hughes a failli aller le prendre s'il n'avait pas pu avoir Demidov. Il l'aurait eu avec les Canadiens de Montréal pour beaucoup plus cher.
Ouais, Verbeek n'a pas eu son prix. C'est pour ça qu'il n'a pas bougé encore. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne bougera pas, par exemple. Ça, c'est bien de le préciser, David, quand même. On va aller en pause.
Oui, mais attends. Je veux rien terminer sur ça, là. Je veux que les gens comprennent. Ça, là, c'est parce qu'il y a eu une offre qui était intéressante des Canadiens de Montréal pendant le draft. Finalement, les Canadiens se sont ravisés. Là, 2 mois plus tard, son joueur va vraiment pas bien. Et là, il y a sa fierté, son orgueil. Je veux avoir ce que j'avais.
Ouais.
Et il est là, son problème.
Ah ouais. Alors, il y en a eu des offres cet été pour Trevor Zegras. David, tu restes avec nous. On poursuit le jeu au retour. Et entre autres, vous ne venez pas manquer ce que David va nous dire sur Demidov.
Joyeux Halloween. 99. Les Bills Ball.